Pour vous, Moufida Tatli, le rapport mère-fille dans la société tunisienne, est-ce qu'il est fondamental? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut se dire que la situation va continuer à changer ou même si les lois ont pu se transformer à un moment donné en Tunisie, il y a quelque chose qui est dû à ce rapport mère-fille, l'une étant transformée par l'autre et l'autre étant éduquée par la première. Donc forcément, il y a un lien tout le temps de base entre le rapport entre la mère et la fille qui est fondamental dans la société tunisienne.
Oui, ça reste fondamental parce que c'est malheureusement, c'est des choses qu'on hérite dans l'enfance qui te marquent, qui restent très, très, très longtemps en toi et qui vont aller s'installer dans l'inconscient de la femme. Parce que personnellement, moi, j'ai vécu ça parce que par rapport à la vie qu'a menée ma mère qui était complètement soumise au silence, au tabou et qui m'a jamais communiqué quoi que ce soit, on parlait avec les yeux, on parlait pas du tout avec la bouche et avait quand même un lien très très fort, mais j'ai hérité d'elle beaucoup de choses que je croyais ne pas avoir hérité, puisque moi j'ai eu un destin tellement différent du sien. Moi je me suis instruite, j'ai fait des études, je suis partie à l'étranger, et quand j'ai eu ma propre fille, que j'ai eu à parler avec ma fille, je me suis rendu compte aussi que ce silence, je le traînais aussi de mon éducation, ce que m'a transmis ma mère, c'est un héritage, et je me demande dans quelle mesure, moi déjà je l'ai pas transmis à ma fille, j'en ai pris conscience, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas passé depuis le bas âge de ma fille jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement des domaines dont on parle beaucoup plus difficilement, et si on en parle, on reste un petit peu sur une non-réponse, on fait attention, on se dit, bon, où en est la société arabo-musulmane, est-ce qu'on peut... Il y a de la théorie, elle est là, effectivement, les droits donnent droit à la théorie, à une prise de conscience, mais dans la pratique, dans la vie quotidienne, dans le rapport de l'homme à la femme, les choses sont encore en train d'être perpétuées comme ça de génération en génération, et je crois qu'il y a encore du chemin à faire là-dessus, quoi.
Et qu'en est-il des jeunes femmes de la génération d'Alia? Alia, on sent effectivement qu'elle est, comme vous l'avez dit, cette fracture qui secoue tout le monde un petit peu. Puis en même temps, votre histoire dans votre film montre que malheureusement, elle-même ne va pas en profiter énormément. Elle-même se retrouvera abandonnée par le jeune homme qui avait l'air d'être pourtant celui sur lequel elle allait pouvoir s'appuyer, qui l'entraînait dans une autre histoire, à sortir du palais par exemple. Alors qui finalement des jeunes femmes profitent de cette cassure qu'a pu introduire par exemple l'héroïne de votre film?
Oui, ben elle-même déjà n'en profite pas vraiment, elle en profite d'une certaine manière, je trouve que c'est quelque chose qui a été très libératrice, douloureusement libératrice, mais Alia à la fin du film est libérée dans la mesure où cette fille dans les années 65 dans un pays arabo-musulman décide d'être une fille mère, de garder un enfant même si c'est une fille, de vivre cette vie là, c'est que cette fille s'est libérée complètement. Cette vie a un degré de liberté totale par rapport à un homme qui n'a pas suivi. D'où, par là, je veux raconter que dans une société, si la femme avance et que l'homme ne suit pas au même degré, il y aura toujours problème, il y aura toujours décalage, il y aura de nouveau... Alia n'a pas été épousée par l'homme qui lui a promis tout ça dans la théorie. Quand il s'est agi de pratique, il s'est retrouvé lui-même confronté à la pression sociale, à la pression familiale, qui sont encore très fortes aux traditions, aux coutumes, et il n'a pas pu épouser Alia. Alia est une fille bâtarde, on n'épouse pas. Alia est une chanteuse, c'est une considérée comme une semi-prostituée, pas à ses yeux à lui, mais aux yeux de la société, et il n'est pas assez fort, il n'est pas assez évolué pour en tout cas aller jusqu'au bout de son projet d'émancipation. Et Alia se trouve larguée quelque part, mais une femme forte est née. Le film optimisme et optimiste à mes yeux, parce que il dit voilà, la femme d'aujourd'hui va quand même commencer, c'est un petit cas, puis on aura d'autres qui suivront, qui décident d'assumer son destin, sa vie avec une certaine liberté.
Ces images dont vous venez nous parler maintenant, Mofida Tatlis, c'est un peu à l'équivalent de ce qui se passe en Tunisie, dans la mesure où des lois ont été changées à un moment donné, mais on sait bien que malheureusement les lois ne sont pas toujours appliquées, ne serait-ce que parce qu'elles ne correspondent pas à la façon dont les gens le vivent, et ce décalage entre la tradition et la réalité, ou bien le poids de la tradition et la réalité, et puis les hommes et les femmes, on le retrouve dans la réalité tunisienne d'aujourd'hui.
Oui, on les retrouve quelque part, parce que de toute manière, il faut dire qu'il y a un déséquilibre total entre les lois qui ont été faites tout d'un coup, comme ça, vite, et entre les traditions qui datent de millénaires et qui sont transmises de génération en génération, ce que j'ai bien voulu montrer dans le film. Il y a quand même une force beaucoup plus grande des traditions qui sont ancrées en nous que le fait d'appliquer une loi. Et appliquer une loi, il faut mûrir pour l'appliquer. Il faut tout un travail sur soi-même, sur pas soi-même toute seule, parce que je me dis, moi-même, une femme maintenant qui veut être libre, elle va regarder autour d'elle, elle va se dire, bon, je vais être libre, mais je vais être seule, je vais être marginalisée. Et les autres, tout le monde ne suit pas. Les gens ont tendance encore à essayer de s'accrocher à la normalité liée aux traditions, à la coutume. Donc, c'est encore des choses très, très fortes contre lesquelles il faudrait se bagarrer, contre lesquelles la femme tunisienne, en tout cas, elle a prouvé qu'elle se bagarre. Elle est arrivée. Je trouve que la femme tunisienne a pas mal réussi son cheminement vers ça. Mais je dis aussi par là que c'est lent. C'est pas une baguette. Les lois, c'est comme si c'était une. On transformait les choses avec une baguette magique. Ça n'existe pas, ça.
Parce que ces lois, pourquoi ont-elles été tout à coup si progressistes en Tunisie et pas dans les autres pays, ou du moins pas de façon aussi définitive? Parce que ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est qu'apparemment vous sentez que c'est un acquis très fort, et que maintenant il reste à faire le travail de fond, mais que vous n'avez pas l'air d'avoir peur que ces lois soient transformées, alors que malheureusement on voit chez vos voisines algériennes, on est en train de revenir très très loin en arrière sur ce qui paraissait solide.
Le fait qu'il y ait eu ces lois, c'est déjà énorme, et que ces lois ont eu très il y a 40 ans, on bénéficie de ces lois. Pourquoi elles ont été là? Parce qu'il y avait à ce moment-là des politiciens qui ont pris en charge l'avenir du pays après l'indépendance, qui étaient éclairés, qui avaient envie d'aller vers le développement, qui voulaient que la femme s'émancipe, travaille, que c'est une partie intégrante de la société tunisienne. On a eu la chance d'avoir ça. Donc ce code du statut personnel de la femme tunisienne est né il y a 40 ans. Il a commencé à être appliqué par certains qui le voulaient très fort, assez vite, par d'autres qui ont résisté. Il y a les femmes elles-mêmes qui ont résisté par rapport aux lois, parce que c'était justement, elles sont tellement impliquées avec leur tradition qu'elles sont arrivées difficilement, par exemple, à accepter le planning familial. Le contrôle des naissances, c'est pas quelque chose qui a marché très vite, parce qu'il a fallu du temps. Maintenant, on peut dire que les choses, quand même, sont arrivées, parce que parallèlement à ces lois, il y a eu quand même un développement économique, il y a eu une classe moyenne qui s'est faite, il y a eu l'obligation pour les filles de s'instruire. Donc toutes ces filles instruites depuis 40 ans sont là maintenant, femmes, mûres, émancipées, instruites, cultivées, occupant des postes importants. Je crois que ces choses-là sont devenues irréversibles. C'est des choses qui ne permettront pas à la femme ne voudrait jamais revenir à un statut datant du 14e siècle, je ne pense pas. C'est des choses quand même, ces lois ont été très bénéfiques, dans la mesure, même si on n'a pas été appliqué immédiatement, elles ont commencé à être appliquées tout doucement, et maintenant elles font partie de la vie, même si il y en a qui ont résisté, de toute façon, par la force des choses, par le développement économique, par le fait que la femme travaille, sera obligée d'appliquer ces lois, et l'homme a été obligé de s'adapter à cette situation nouvelle, parce qu'il n'y a plus les moyens de faire autrement, même économiquement. Et moi, je trouve que le développement économique est un facteur aussi très important, aussi important que l'émancipation de la femme. Ça va de pair pour permettre justement à cette femme de trouver sa place et son rôle dans la société. Il faut que ça devienne irréversible. Et c'est devenu irréversible en Tunisie, parce qu'effectivement, il y a eu un encouragement énorme par rapport à l'instruction des filles, par rapport à la scolarisation des filles. Il y a eu un travail formidable de fait, et le contrôle des naissances aussi. Les mères qui se sont retrouvées à ne plus faire 5, 6, 10 enfants se sont retrouvées beaucoup plus libérées, beaucoup plus capables de vivre leur vie autrement que celle d'être obligées que d'élever des enfants.
Et quelle est la part des femmes dans ces changements-là? Parce que vous avez l'air de dire que c'est beaucoup justement des politiciens éclairés, Bourguiba et d'autres, qui au moment de l'indépendance ont amené ces lois-là. Mais les femmes elles-mêmes, est-ce qu'elles étaient actives? Est-ce qu'il y a eu un mouvement de femmes, des associations de femmes qui se sont créées au Tunisie, qui font que ce changement est aussi lié à une lutte de femmes, ou pas du tout?
Je pense que c'est né avant Bourguiba. Il y a eu d'abord Tahar Haddad, un écrivain féministe qui a écrit des textes extraordinaires sur la condition de la femme bien avant. Il y a eu des femmes aussi qui ont milité pendant l'indépendance, en même temps qu'elles ont été militantes pour obtenir l'indépendance, elles ont milité parallèlement pour l'émancipation de la femme. Et cette lutte a continué à travers l'Union des femmes tunisiennes qui, jusqu'à présent, la femme continue à lutter à tel point que quand on voit autour de nous justement ces mouvements intégristes qui sont en train de s'installer dans les pays voisins, les femmes tunisiennes sont dans leurs associations très actives, très vigilantes par rapport à ça, au point que le président actuel, Ben Ali, il y a 2 ans, alors que c'était vraiment un moment très délicat dans l'histoire de cette partie du monde, a encore amendé les lois dont bénéficiaient les femmes. Il a fait 2 amendements très importants, très progressifs, consolidant encore la position de l'émancipation de la femme, ce qui prouve bien qu'on ne recule pas avec ces amendements. Et ça a donné beaucoup de courage aux femmes, ça a donné beaucoup de foi. Et ce qui m'a fait très très plaisir, je lisais encore des documents avant de venir sur des réunions que ces femmes font. Elles ne sont pas seulement très fières des acquis de la femme tunisienne, elles sont aussi un peu autocritiques en parlant de ce décalage dont je parle, que les mentalités ne sont pas encore tout à fait transformées, qu'il y a encore du travail à faire, qu'il y a un décalage entre l'homme et la femme. C'est des termes qu'elles utilisent dans leur discours officiel et ça m'a fait très 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 plaisir.
La musique des Silences du Palais, un film réalisé par Moufida Tatli que vous pouvez découvrir en ce moment au cinéma Rialto. Et la musique que vous entendez en ce moment, eh bien, c'est celle sur laquelle danse la mère d'Alia. Alia qui découvre sa mère en train de faire la danse, de danser, faire la danse du ventre pour les seigneurs, un rôle qu'elle ne lui connaissait pas du tout.
Analyser, Moufida Tatli, cette émancipation de la femme tunisienne. On lit à gauche et à droite, en tout cas dans nos journaux ici à Genève, la déposition de certains musulmans qui disent toujours oui, mais nous on ne veut pas que libération de la femme signifie occidentalisation de la femme. Ils ont très peur, ils abordent cette image. Liberté, émancipation signifie occidentalisation et donc perdre la culture arabe ou musulmane. Est-ce que vous sentez cela en Tunisie? Est-ce que les femmes en se libérant perdent un particularisme tunisien?
Moi, je ne crois pas qu'elles ont perdu, d'où la force d'ailleurs de la femme tunisienne, c'est qu'elle a su aménager en même temps son émancipation, sa liberté, les lois qui lui donnent les droits en tant que femme, égaux à ceux des hommes, exactement de la même manière qu'une femme suisse ou qu'une femme française ou qu'une femme hollandaise, mais elle n'a pas pour autant abandonné ses valeurs traditionnelles, ses principes moraux qui sont liés à sa religion, qui sont liés aux traditions de la civilisation arabe-musulmane, qui font partie de son identité, font la richesse de sa différence avec les autres. Et je trouve que peut-être le combat est un petit peu maladroit de dire nous ne voulons pas, mais le fait de savoir d'aimer ces traditions, d'aimer cette culture qui est notre identité, c'est une manière de la préserver. C'est pas la peine d'en parler, d'en faire une bagarre. Il suffit qu'avec ça, on s'ouvre vers le développement et pour que ça puisse faire un mélange harmonieux et que la femme soit en même temps libre et en même temps avec son identité propre, correspondant à son pays, à sa civilisation. Alors qu'il ne faut pas une femme occidentale se disant bon moi je vais suivre le modèle de la femme tunisienne, je vais appliquer les traditions de la femme tunisienne tout en. Vous voyez, ces différences sont très belles, je trouve au contraire qu'il faut préserver.
Effectivement, mais cette hantise, on a toujours l'impression que la hantise de libéralisation, émancipation de la femme signifie quelque chose d'horrible, donc copie de l'Occident.
Très, très, très peur de la perte d'identité, et ça se comprend un peu, ça se justifie par le fait que tous ces pays ont été colonisés à un certain moment, avec le risque énorme de perte d'identité. Qu'est-ce que c'est une colonisation? Quand on colonise, c'est essayer de déculturer un pays, c'est essayer de lui donner une nouvelle image, et c'est cette angoisse qui restait ancrée en eux. Nous ne voulons pas devenir autre, nous voulons rester les mêmes. Et c'est ça sur le quoi a joué d'ailleurs l'intégrisme. L'intérisme a joué beaucoup. C'est une facilité pour eux. Ils ont trouvé du terrain favorable grâce à cette forme de slogan, si je peux dire.
Alors justement, par rapport à cette montée des intégrismes, des femmes, en tout cas des pays voisins de la Tunisie, vivent des situations épouvantables et très très tragiques en ce moment. Comment réagissent les femmes en Tunisie est-ce qu'elles se disent qu'elles peuvent éventuellement aider ou jouer un rôle dans la situation ou bien vous vous sentez très impuissante?
La vérité, pour dire très sincèrement, on est de cœur très 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 solidaire par rapport aux femmes algériennes, parce que en fait le Maghreb, c'est une région du monde où on a l'impression de faire partie d'un même pays. C'est petit, c'est un continent qui est tout petit, et on a à peu près les mêmes cultures, la même tradition, on a la même religion, il y a beaucoup de très, très communs, pas seulement la proximité géographique, mais aussi la proximité culturelle. Et ce qui se passe en Algérie nous fait en même temps très peur. On est très solidaires du combat des femmes, du combat des hommes aussi, qui luttent contre l'intégrisme. On devient encore plus vigilant par rapport à notre situation. On fait beaucoup plus attention. Je crois que nous gouvernants aussi ont pris conscience de l'importance, en essayant d'analyser ce qui se passe en Algérie, on va essayer de savoir pourquoi l'Algérie en est arrivée là. Et en essayant d'analyser ça, je crois que les autres pays, ça leur donne un coup de fouet très positif, parce qu'ils vont être beaucoup plus vigilants par rapport à certaines choses qui pouvaient aller par laxisme, vers des débordements, de mécontentement, vers des gens qui auraient été de plus en plus malheureux, de plus en plus pauvres, de plus en plus... Et là, l'intérisme aurait trouvé terrain. Et je crois que là, je ne dis pas à tout malheur, il y a quelque chose de bon, mais parce que vraiment, je n'oserais pas dire ça, c'est affreux, mais... moi, personnellement, je suis très, très, très solidaire du combat que mènent les femmes algériennes dans leur pays. Mais avec une certaine dose d'impuissance, effectivement, le mot impuissance est juste. Il est bien placé, parce qu'on ne voit pas très, très bien qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ces femmes vivent quotidiennement leur vie. Elles sortent de chez elles, elles sont assassinées. Que puis-je faire en allant... Puis-je arrêter cet assassinat qui est maintenant, pour le moment, irrationnel total? Il n'y a pas il faut lutter à sa manière, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il peut.
En fait, en même temps, ça doit être très important pour les femmes algériennes de savoir que des femmes vivant sous des lois musulmanes ou musulmanes peuvent vivre une autre vie que celle qu'on leur promet dans leur pays. C'est pas impossible, c'est pas contraire à leur religion, contraire à la tradition.
Oui, mais moi je crois qu'elles se basent aussi sur ça pour mener leur lutte, qu'elles doivent prendre pour exemple un petit peu.
Thank you.
La première voix que vous avez entendue, c'était celle d'Alia. D'Alia qui chantait pour la première fois pour les maîtres. On l'avait invitée à l'étage, visiblement favorisée par le prince qui avait un regard d'une certaine tendresse pour sa fille bâtarde. Et puis la deuxième voix, eh bien la deuxième voix, c'est celle d'Oum Kalsoum. Je vous le répète, c'est sa voix au tout début de sa carrière de chanteuse. Nous sommes en 1926. Et il est une dernière question que je voulais poser à Moufida Tatli, la réalisatrice du film Les Silences du Palais.
Moufida Tatli, lorsque j'ai vu votre film, j'étais accompagnée d'une adolescente qui a 13 ans et qui a été très très touchée par ce qu'elle a vu. Elle s'est, je crois, beaucoup identifiée à la situation d'Alia, tout en dans ses découvertes, dans les questions qu'elle se pose. Et je me demandais si pour vous, ce film est aussi une façon de parler aux adolescentes et de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Peut-être que justement, à cause du silence de leur mère, elles ne connaissent pas. Et que peut-être, de façon insouciante, elles ne connaissent pas non plus parce que leur situation a déjà un peu changé.
Oui, je crois. Réellement, vraiment, là, vous posez la question la plus... Oui, c'est tout à fait... En tout cas, une des causes pour lesquelles j'ai fait le film, c'est un petit peu ça. C'est pour répondre à une adolescente qui est ma propre fille et qui, effectivement, ignorait d'où je venais, moi, d'où venait sa grand-mère. Déjà, la mémoire s'est effacée. Déjà, on ne parle plus de ça. Déjà, on ne parle plus que les lois, le code du statut personnel, la planification, la polygamie interdite, l'instruction. Tout ça est devenu une telle réalité, une telle normalité dans le pays qu'elle ignore complètement que très peu d'années avant, les femmes vivaient une situation tout à fait différente. Et j'ai eu besoin, par rapport aux questions qu'elle pose, justement, parce qu'elle se rend bien compte qu'il reste des traces et des séquelles de ça, puisqu'elle n'arrive pas à résoudre elle-même ses problèmes de corps, de sexualité, et qu'elle se pose des questions par rapport à la société dans laquelle elle vit. Il fallait lui raconter un petit peu d'où elle vient, cette femme qui a l'air d'avoir été toujours là pour elle, mais qu'en fait, quelques années auparavant, elle était tellement dans une autre situation qu'effectivement, c'est normal qu'il y ait encore des résidus, des séquelles, des traces de ce passé si récent. Et c'est, mon souhait le plus grand a été avec ce film, d'ouvrir un débat avec les jeunes, pas les jeunes filles seulement, les jeunes garçons aussi, parce que il serait peut-être temps, justement, pour éliminer ce décalage dont je parle dans le film, entre l'homme et la femme, que le débat soit au même moment, pour la même chose, ensemble, et qu'on puisse parler de choses dont on ne parlait pas, qui étaient très tabous, et que j'ai moi-même transmis avec le silence, avec ma fille, et que je suppose beaucoup, beaucoup de mères vivent la même situation avec leurs adolescentes. Oui, je souhaite très très fort que ce soit vraiment un débat ouvert avec les adolescents.
Et est-ce que ça a déjà commencé? Comment votre film a été reçu en Tunisie?
Le film dans les salles a été formidablement bien accueilli par les adultes, par les femmes particulièrement. D'où une petite déception pour moi par rapport aux adolescentes qui ont été, mais qui ne sont pas sorties avec des questions à poser ou à débat. Elles ont été un petit peu surprises par ça. Mais j'ai eu deux ou trois débats dans des écoles, pas des lycées, des facultés. Donc pas tellement des adolescentes, parce que c'était de 22, 25 ans. Et j'ai été surprise de trouver un âge adolescent chez ces jeunes par rapport à ces questions posées, qu'ils étaient dans le désarroi, qu'ils n'avaient pas de réponse non plus, qu'ils ne savaient pas exactement comment se situer par rapport à la société d'aujourd'hui. Et elles savent que l'instruction, c'est fini, c'est fait, la planification des naissances, c'est fait. Tout ça, c'est des acquis maintenant irréversibles pour elles. Mais certaines choses sont encore dans l'ombre, dans le flou. Et elle se pose encore plein de questions. Et là, j'ai pu un petit peu parler. J'ai posé moi-même des questions pertinentes. Elle était là pour me poser des questions, mais j'ai essayé aussi de leur poser des questions, aux garçons particulièrement. Et les réponses étaient assez étonnantes.
Vous pouvez me donner un exemple?
Eh ben, je sais que j'ai posé la question de problème de la virginité. J'ai dit, pour vous, quelle est l'importance de la virginité aujourd'hui, pour les garçons comme pour les filles? Et j'étais étonnée de voir que c'était une question qui restait très 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 importante et très liée encore au mariage, que la virginité avant le mariage était quelque chose d'assez mal vécu encore.
Aussi bien pour les garçons que pour les filles?
Oui, les filles aimeraient, mais dans la mesure où les garçons n'assument pas ça, elle continue à perpétuer cette histoire-là, quoi.
Je vous remercie beaucoup, Moufida Tatli.
Oh,
toujours la bande sonore du film, de qualité moindre puisqu'enregistrée en direct dans la salle de cinéma. C'est Alia qui chante pour les fiançailles de son amie Sarah, Sarah la princesse. Et à un moment donné, eh bien, après une première chanson traditionnelle de la musique classique arabe, eh bien, Alia va entonner le chant des partisans qui préparent l'indépendance. Et vous pouvez imaginer la surprise des invités. Voilà, c'était Moufida Tatli, la réalisatrice du film Les Silences du Palais, film que vous pouvez voir encore pendant de nombreux jours au cinéma Le Rialto à Genève. Il sera sûrement diffusé ailleurs en Suisse romande. Ce film est distribué par Trigon Film, dont on le sait bien que son objectif est de préserver la diversité sur les écrans suisses et de favoriser l'expression d'un cinéma différent, pluriel, authentique, qui vient principalement du Sud. Et bien sûr, quant à nous, nous soutenons ce pari et nous espérons qu'il aboutira. Et c'est jouable en partie, entre autres, si vous décidez d'adhérer à l'association qui soutient Trigon Film. Pour toute information, bien, il vous suffit de téléphoner au 022 779 29 85. Je répète, téléphone de Trigon Film 022 779 29 85 pour adhérer à l'association de soutien à Trigon Film. Et je vous encourage vivement à aller voir Les Silences du Palais. J'espère que la moitié d'interview qu'il m'est restée de mes tribulations pénibles techniques hier avec Moufida Tatli vous aura convaincu que ce film est magnifique. Je crois que Moufida Tatli aurait pu encore me parler des heures et des heures de la situation de la femme algérienne avec tous nos ennuis techniques. Hélas, l'heure était venue qu'elle s'en aille vers une autre interview à Lausanne, donc nous avons dû nous interrompre. Mais elle a suivi de très très près tout ce qui s'est passé en Tunisie, elle est très proche de tout ce qui se passe et elle a de nombreuses anecdotes à raconter sur par exemple comment les femmes ont réagi au moment où le gouvernement tunisien a mis sur pied toute une campagne d'information auprès des femmes, par exemple pour leur expliquer le fonctionnement des moyens de contraception. Et là, Moufida Tatli, je vous la raconte parce qu'elle m'a quand même vite raconté ça avant qu'on se quitte, une anecdote concernant une femme qui visiblement en Tunisie est considérée comme un peu exemplaire. C'était une femme dont le mari est pêcheur et elle avait déjà 7 enfants de ce mari. Et il a commencé à boire, etc. Vraiment, n'arrivant plus à remplir sa tâche d'homme au foyer qui doit entretenir sa famille, comme telle le veut la loi musulmane. Et donc, elle a décidé qu'elle allait ne pas se laisser abattre par ce mari devenu une loque. Donc, elle a décidé qu'elle allait devenir elle-même pêcheur. Elle ne comprenait rien à tout ce qu'on était venu lui raconter. Elle avait vu arriver des camions avec des informations, des gens qui parlaient de pilules qu'il fallait prendre à tel, chaque jour, etc. Ça, elle n'avait rien compris. Elle ne s'était pas occupée de ça. Ça ne faisait pas partie de sa vie. Mais un jour, elle prend une décision fondamentale. Je veux remplir le rôle, mener ma vie, moi décider ce qui se passe dans ma famille. Je vais devenir pêcheur à la place de mon mari. Ce qu'elle a fait. Et puis, elle s'est trouvée malgré tout une 9e fois enceinte, 8e fois, je ne sais plus à quel chiffre j'en suis restée. Enfin bref, elle a eu encore un enfant. Et là, elle a décidé un jour de prendre un bus pour aller jusqu'à la ville principale qui se trouvait quasiment à 300 km de chez elle. Et puis elle arrive à l'hôpital et là elle dit, tout en n'y connaissant rien, comme je vous l'ai dit, n'ayant rien compris de ce qu'on avait pu vaguement lui raconter avant, elle dit, je veux qu'on me donne le médicament qui fait que j'aurai plus jamais d'enfant. Et elle ne savait pas, bien évidemment, qu'il existait un moyen, qui était l'allégation des trompes, pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle désirait, ce qu'elle a obtenu ce jour-là. Alors l'histoire de cette femme très délicieuse sur la façon dont peut-être les femmes ont pris conscience d'un certain nombre de moyens pour contrôler.